Bonjour, donc on va tenter de rendre hommage à l'œuvre de Ballard, puisque c'était le thème de la table ronde. Donc hier, vous avez peut-être déjà assisté à une autre sorte d'hommage musical et en images. Donc là, on va revenir avec nos invités donc sur l'œuvre de Ballard qui est, donc je vais présenter brièvement, après avoir présenté donc les invités. Donc à l'extrême gauche, Hugo oui. Bellagamba, de point de vue, qui est, je crois, maître de conférence en droit à Nice.
Oui.
Mais qui est aussi, bien sûr, et c'est à ce titre que je l'ai proposé d'assister à cette table ronde, romancier. Son dernier roman, Tancrède, est une uchronie, publié en 2009 aux éditions des boutons électriques. Il est également l'auteur d'un co-auteur d'un ouvrage sur Robert Heinlein avec Eric Pichol. Pardon. Il a publié également La 8e colline de Rhône, Les années d'Orichalc. C'est également donc un essayiste et un organisateur de colloques. On faisait entre autres un colloque de science-fiction très important à Nice il y a quelques années qui a été publié. Voilà, très brièvement. Et ses thèmes de prédilection, et donc on aura l'occasion d'en reparler, sont l'utopie, l'uchronie et l'exploration spatiale, entre autres. Juste à côté, Roger Bozzetto, qui est professeur émérite de littérature comparée à l'Université de Provence, auteur de très nombreux ouvrages sur le fantastique et la science-fiction, depuis L'obscur objet du savoir, donc un titre tout à fait alléchant, si j'ose dire, Territoire des fantastiques, le fantastique dans tous ses états, Frontières du fantastique ou encore Mythologie moderne et science-fiction. Donc il a effectivement ces deux objets de recherche, ce sont la science-fiction et le fantastique. Il est également collaborateur depuis de très nombreuses années de nombreuses revues de science-fiction, Fiction, Solaris, Science Fiction Studies, etc. Et à ma droite, ce que je ne veux pas dire.
À l'extrême droite, disons-le.
Ce qui ne veut rien dire. Francis Berthelot, que tout le monde ici connaît, je pense, qui vient régulièrement aux Utopiales depuis de très nombreuses années, qui a été, jusqu'à une date très récente, chercheur au CNRS en narratologie ou sur le rapport art et langage, disons, qui est par ailleurs donc romancier nouvelliste. Il est l'auteur de très nombreux recueils de nouvelles. J'en cite deux, La boîte à chimères, Forêt secrète. Le cycle romanesque, Le rêve du démiurge, qui va comporter 9 romans. Alors, je sais pas, voilà, je vous en cite quelques-uns, L'ombre d'un soldat, Le jeu du cormoran, Nuit de colère, etc. Et de plusieurs romans de science-fiction, ou apparentés, ou fantasy science-fiction, La lune noire d'Orion, Le rivage des intouchables, Hadès Palace, La ville au fond de l'œil. Et puis, il est aussi connu pour son essai sur la transfiction, qui est un concept qu'il a inventé, donc on pourra peut-être évoquer dans d'autres circonstances. Et récemment, donc, il a collaboré une anthologie sur science-fiction et érotisme qui vient de paraître. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Alors, je vais peut-être rappeler brièvement les étapes de la carrière de Ballard, hein, sans rentrer trop dans les détails, mais quand même pour refixer un peu les choses. C'est une œuvre évidemment très riche et foisonnante qui s'étend sur plus d'un demi-siècle, jusqu'à sa mort récente. La première nouvelle a été publiée en 1956, et dont Le Monde englouté est son premier roman, et sa dernière œuvre est donc publiée en 2008. C'est une autobiographie dont on va reparler. Les nouvelles ont été republiées récemment en français chez Tristram. Alors ce premier ensemble est considérable, et ces nouvelles, donc par exemple, parmi les plus connues peut-être Vermilion Sands, hein, Les Sables Vermillons, ou encore La Foire aux Atrocités. Les thèmes sont extrêmement variés, certains sont l'embryon de romans ultérieurs, savoir qu'il y a une continuité, à la fois une diversité, une grande continuité, une grande cohérence dans son œuvre. Donc aussi bien des paysages vénusiens post-apocalyptiques, des rêveries poétiques, etc., des réécritures aussi de textes canoniques, comme par exemple Jonathan Swift, Les Aventures de Gulliver, variations sur des icônes comme Marilyn Monroe ou Kennedy, etc. Alors pour les romans, c'est donc une mosaïque assez complexe, disons en gros une première tétralogie des romans de type catastrophiste ou post-apocalyptique où les éléments jouent un rôle primordial. Donc Le Monde englouti, La Forêt de cristal, dont on parlera, La Sécheresse, Le Vent de nulle part, Et puis une trilogie très célèbre, donc je vous recommande l'édition récente avec la préface de Xavier Mauméjean, qui nous fera peut-être l'honneur de venir tout à l'heure à la fin de sa signature. Donc Crash, L'île de béton, IGH. On pourrait dire que c'est l'un des cœurs, l'un des centres de l'œuvre. Et puis un dernier ensemble qui, là encore, soit une trilogie, si on considère que ça commence à Super Cannes, pour se prolonger avec Millennium People et Que notre règne arrive, donc sa dernière œuvre fictionnelle en 2007. Mais on peut aussi y rajouter un autre texte qui relève aussi de cette approche-là, où le lien entre l'environnement architectural joue un rôle absolument fondamental. Alors je n'oublie pas de dire aussi que c'est un des pionniers de la New Wave de science-fiction, nouvelle vague de science-fiction, avec Michael Moorcock, et qu'il a été bien sûr collaborateur de la revue New Worlds. Et j'ajouterai pour finir la dimension autobiographique avec L'Empire du Soleil, qui est une autobiographie romancée, en partie romancée, et donc sa dernière autobiographie publiée récemment, juste avant sa mort, Miracles of Life, La vie et rien d'autre. Alors je termine en citant un entretien récent où il répète cette phrase provocatrice: j'ai arrêté la science-fiction à la fin des années 60. Donc vous voyez, très près du début de sa carrière, parce que le monde a rattrapé la science-fiction. Voilà. Donc à la limite, j'aurais pu demander à chacun des intervenants de commenter ça. Je vais poser une autre question peut-être avant. Chacun d'entre vous pourrait me dire comment, dans quelles circonstances il a rencontré le nom et l'œuvre de Ballard. Donc je sais pas qui veut commencer.
Oui, moi je veux bien commencer, je vais en profiter pour rendre hommage à quelqu'un de très important aussi dans le monde de la science-fiction, qui est Robert Louis, qui a été mon premier éditeur et qui est décédé le 13 mai de cette année, donc moins d'un mois après Ballard. Et Robert Louis a été le traducteur de très nombreux romans de Ballard. Et quand il m'a pris mon premier roman chez Kalman Levy dans la collection Dimension, dont il était le directeur, en 1980, ce premier roman était La Lune Noire d'Orion, qui était assez agressivement homosexuel, je me suis étonné quand même de ce que ce type ait publié un tel roman. Et en bavardant avec lui, à un moment, il me dit « Tiens, tu devrais lire Crash de Ballard ». Alors j'ai lu Crash de Ballard, et qui est quand même un livre extrêmement osé, enfin, c'est un livre sur lequel on reviendra, qui décrit en gros l'accident de voiture comme perversion sexuelle. Et quand je me suis rendu compte que c'était Robert Louis lui-même qui non seulement l'avait édité en français mais l'avait traduit, ça m'a expliqué pourquoi il avait pu prendre mon livre. Donc ça m'avait révélé déjà comme un homme d'une très grande ouverture d'esprit. Et il était par ailleurs lié par de forts liens d'amitié avec Ballard. Je crois d'ailleurs que le décès de Ballard l'a profondément affecté et a hâté son propre décès. Donc voilà, je lui rends hommage. Et c'est donc comme ça que j'ai vraiment découvert Ballard. Cela dit, je crois que j'avais quand même avant lu la Forêt de Cristal, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais bon, pour moi, ce sont un peu les deux ouvrages fondateurs de mon approche de Ballard.
Merci. Roger, tu...
Moi, j'ai rencontré banalement la première nouvelle de Ballard quand elle est parue dans Fiction. Et c'était une nouvelle qui a paru ensuite dans... Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qui sera reprise dans Vermilion Sands et qui déjà... comment dire ? Donner le ton de ce que sera Vermilion Sand, c'est-à-dire des paysages de sable, des paysages onduleux, des paysages qui ressemblaient un peu aux paysages des montres molles de Dali. Et comme à l'époque je m'intéressais au surréalisme, j'ai fait un rapport évident avec Vermillon Sand des Ballard.
Oui. Alors, moi, c'est un petit peu différent. En fait, j'ai découvert Ballard en découvrant la science-fiction, en fait, en découvrant les auteurs, et notamment de la collection J'ai lu. Hein, donc, j'ai découvert les différents auteurs comme ça au fur et à mesure de mes lectures. Donc, il n'y avait pas une démarche précise de découverte de Ballard. Et puis, mon rapport à Ballard est un peu l'histoire d'un rapport en deux temps. C'est-à-dire que j'ai effectivement commencé par découvrir donc la forêt de cristal, notamment la forêt de cristal et toute cette atmosphère de monde en déliquescence, de monde en mutation, de catastrophisme lié au surréalisme aussi, qui m'avait marqué. Et puis ensuite, il y a eu la trilogie de béton qui, alors la première fois, ne m'a pas parlé véritablement. Et c'est plus tard, en la relisant, que j'ai redécouvert Ballard. Et finalement, il y a deux temps pour moi. Il y a le premier Ballard quand j'étais plus jeune, qui est vraiment le Ballard de la forêt de cristal et de cette atmosphère de fin du monde surréaliste qui m'avait marqué. Et le Ballard plus d'anticipation sociale que j'ai découvert beaucoup plus tard, que j'ai redécouvert beaucoup plus tard et qui m'a plu par le travail qu'il fait sur les formes de société et les sciences sociales. Et ce qui m'a plu, c'est que pour moi, Ballard fait de la science-fiction. Hein. Je veux dire par là que je m'inscris en faux sur le fait, c'est ce qu'il dit lui-même. Hein, bon, lui-même, voilà. Mais je pense que le travail de Ballard sur la réflexion sur qu'est-ce qu'une société, quelle est la place de l'individu dans une société, comment l'individu peut être déshumanisé en fonction de la nature même de la société, pour moi, c'est totalement lié à la science-fiction. Mais c'est venu dans un deuxième temps. J'avoue que la première fois, là, peut-être trop jeune, je ne sais pas, c'est pas ce qui m'avait plu le plus chez lui. Voilà. Donc il y a deux Ballard pour moi et il y a deux temps de la découverte de Ballard, en fait.
D'accord, merci. Peut-être revenir brièvement sur, Roger, sur l'influence justement du surréalisme, en particulier des peintres surréalistes sur l'œuvre de Ballard depuis, effectivement, enfin très tôt dans sa carrière. Tu pourrais rajouter quelques précisions?
D'abord, il a écrit un article sur Salvador Dali et l'inconscient, et il s'est intéressé à partir de Dali à la peinture, y compris par la suite au pop art et à Warhol. Si l'on reparle, mais on reparlera tout à l'heure de la foire aux atrocités. Oui. Qui est une expérience littéraire qui équivaut peut-être au pop art au pop art et à Warhol par la suite. Donc une influence du surréalisme, un amour du surréalisme chez Ballard, mais qui ne l'a pas, il n'est pas resté simplement scotché au surréalisme. Il a ensuite été toujours dans le cadre de la peinture. Il a suivi les mouvements qui ont succédé et il s'en est inspiré de manière assez forte.
Je crois qu'on pourrait rajouter par rapport aux influences picturales le rôle de Francis Bacon qu'il a découvert très tôt, et il y a certainement une filiation entre l'univers de Bacon, pictural de Bacon, et la logique de la sensation, comme dirait Deleuze, et le travail de Ballard dans certains de ses textes. Je ne sais pas si d'intervenir, mais donc voilà. Peut-être aussi, vous auriez des réactions par rapport à ça. Vous êtes des écrivains. Je pense que Ballard, ce qui est assez frappant quand on lit son œuvre, c'est le rapport à la littérature des autres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une connaissance de la littérature assez exceptionnelle. Il cite énormément d'œuvres, donc aussi bien sûr des grands classiques que des romans contemporains. Et un certain nombre de ses textes sont des réécritures d'œuvres littéraires. Je pense en particulier à un texte qui s'appelle La Cité Ultime, je crois, ou qui est véritablement une réécriture de La Tempête de Shakespeare. Et on trouve la même thématique dans IGH, par exemple, aussi, avec ce rapport avec l'île de Prospero. Roger, peut-être tu pourrais dire deux mots de ça, ce rapport intertextuel, disons, de l'œuvre de Ballard.
Bon, je ne sais pas s'il visait absolument Shakespeare quand il écrivait. Non. Mais... ce que je sais, c'est qu'il a accordé une grande importance à l'écriture lui-même, voilà. Et à la réécriture peut-être, mais c'est surtout qu'il a pris en compte les changements sociaux pour s'en nourrir. Et c'est peut-être dans l'architecture plutôt que dans la littérature qu'il a puisé son approche des changements sociaux tels qu'ils s'inscrivaient dans la réalité.
D'accord. Bon, pour revenir sur l'approche littéraire, par exemple dans Super Cannes, il y a une référence constante à Alice au Pays des Merveilles. Hein, la figure du miroir revient constamment, la petite fille, ce qu'il y a d'un côté et de l'autre, la traversée des apparences, ça sous-tend complètement tout le roman Super Cannes, qui est un roman qui se passe dans un parc de travail magnifique, etc., et dont l'envers est une série de crimes assez sordides, finalement.
Voilà. Sur le côté stylistique, on voit aussi une évolution, me semble-t-il, hein, on voit aussi une évolution de sa manière d'écrire entre la première période surréaliste et puis lorsqu'il glisse de plus en plus vers l'anticipation et sa plume, son écriture, et pour avoir relu récemment, justement, Sauvagerie notamment, se fait de plus en plus clinique. Et on disait, en préparant cette table ronde, que Ballard avait fait aussi des études de médecine, hein, et 2 ans d'anatomie. Et cette différence entre la surface et ce qu'il y a sous la surface est clairement expliquée, notamment il le dit très bien dans son autobiographie. Pour lui, ses études de médecine, et notamment d'anatomie, de dissection de cadavres, je pense que ça joue tout à fait dans la manière clinique dont son écriture dément les apparences de la société pour en révéler les failles.
Ça se remarque particulièrement dans Crash, où justement il y a toutes les figures de l'union entre le corps et la voiture, les blessures. C'est effectivement extrêmement anatomique. La voiture elle-même est décrite de façon très anatomique. Et on trouve cette dualité, enfin cette thématique de la dualité entre l'organique et le minéral qui revient constamment dans son œuvre. Mais effectivement, bon, l'approche médicale, les accouplements sont décrits de façon très médicale, oui.
Je vous donne lecture rapide, hein, de La vie et rien d'autre, donc qui vient de paraître, en fait. Hein, voilà. Et voilà ce qu'il dit. Près de 60 ans plus tard, je reste persuadé que mes 2 ans d'anatomie comptèrent parmi les plus importants de ma vie et participèrent largement à la formation de mon imaginaire. En 1949, je disséquais des morceaux de corps humain. J'écartais les couches de peau et de graisse superficielle pour atteindre les muscles, que je séparais à leur tour pour révéler les nerfs et les vaisseaux sanguins. D'une certaine manière, je faisais l'autopsie de tous les Chinois défunts, abandonnés au bord de la route, sur le chemin de mon école. Je menais une sorte d'enquête émotionnelle, voire morale, sur mon propre passé, associée à la découverte du vaste monde mystérieux du corps humain. Donc il y a vraiment cette idée, me semble-t-il, de dissection, alors que ce soit de la chair ou de la mécanique, sous la surface, il y a des couches et des couches qui finalement finissent par dire le contraire de ce que la surface pouvait laisser apparaître.
Oui, prochain. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a parlé du surréalisme, on a parlé, maintenant on vient de parler de l'attitude, disons, de dissection, mais je crois qu'il y a aussi, de la part de Ballard, une influence qui est celle du nouveau roman, où justement pour les descriptions qui se veulent distanciés et qui se veulent chirurgicales, il y a toute cette influence qu'il a revendiquée quand il faisait des articles dans New World. Et je crois qu'il y a, indépendamment de ce que vient de dire Hugo, il y a aussi un changement dans les modèles dont il s'inspire.
Absolument. Alors, bon, on va revenir peut-être à l'une des grandes questions, disons, qui se pose quand on étudie Ballard, quand on lit Ballard, la question de l'espace, urbain, bien sûr, en particulier, de l'architecture au sens plus large du terme, donc qu'on trouve décliné sous de multiples façons dans toute son œuvre, aussi bien dans les nouvelles que dans les romans, et en particulier dans la dernière trilogie, donc il vient d'être évoqué, Super Cannes, et aussi Millennium People, et le tout dernier texte, donc. Qui évoque une zone périurbaine, périphérique dans la banlieue de Londres, qui est la banlieue d'ailleurs où Ballard a vécu lui-même toute sa vie, Shepperton, et donc dont il parle dans une interview récente, pardon, dans Le Monde. Est-ce que donc vous pourriez intervenir sur cette question de l'espace dans un premier temps, déjà la différenciation des espaces, enfin des espaces horizontaux aux espaces verticaux, il y a cette dimension d'horizontalité et de verticalité, le rapport aussi entre l'intérieur et l'extérieur, donc je crois qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Qui veut commencer, donc peut-être par rapport à Super Hugo,
En fait, pas tellement sur l'horizontalité et la verticalité, mais sur le domicile et l'espace de la maison, en fait. Parce que finalement, la maison est une petite forme de société, si on prend la famille. Et je crois que Ballard est intéressant parce qu'il... Il y a un petit Larsen, mais j'espère que vous m'entendez bien. Il montre, en fait, que l'organisation de l'espace social ou familial influe sur les rapports entre les individus. Et alors, c'est un cliché de dire que... on voit ça dans beaucoup d'analyses de Ballard, qu'il met les espaces intérieurs, donc les espaces intra-individuels, vers l'extérieur. Il renverse le rapport à l'espace. Mais ce que je trouve de particulièrement remarquable, et qui est une idée qui, par ailleurs, m'intéresse beaucoup... C'est, il montre que l'organisation de l'espace influe sur le comportement de l'individu. Et il montre que l'organisation de l'espace, que ce soit un espace social ou un espace familial, un domicile, l'organisation de cet espace joue sur les rapports, la nature même des rapports et l'étendue même des rapports entre les individus. Dans son autobiographie, il parle de ses premières années lorsqu'il était enfant à Shanghai. Et il parle de la grande maison dans laquelle il vivait à Shanghai avant l'invasion japonaise. Et il explique que la maison était si grande qu'il pouvait passer la majeure partie de la journée sans voir les autres membres de la famille, sans voir ses parents. Et particulièrement que, comme c'était le cas dans les maisons anglaises de l'époque, et donc les maisons coloniales en grande partie aussi, chacun avait ses zones... attribué, et notamment sa salle de bain. Et comme il dit dans son autobiographie, je ne voyais jamais mes parents nus, ou je ne voyais jamais mes parents dans une situation d'intimité, j'avais ma propre salle de bain, lorsque j'étais nu, ils ne me voyaient pas, lorsqu'ils étaient nus, je ne les voyais pas, et je vivais donc à côté d'eux sans ce contact, sans ce regard ou ce lien physique. Et il explique qu'avec ses propres enfants et dans sa vie ultérieure, au contraire, il a inversé ce genre de rapport et il a mis en commun les lieux familiaux qui sont la cuisine, etc. Je veux dire, on parle souvent de Ballard en termes d'organisation architecturale sociétale, mais il y a aussi la dimension familiale du domicile qui est très révélatrice et qu'on retrouve dans Sauvagerie.
Alors qu'on la retrouve dans Sauvagerie, dont on va parler, tu vas parler, mais je voulais simplement dire que, paradoxalement, Ballard a découvert l'intimité de la vie familiale dans les camps d'internement japonais, où là, justement, l'espace était un espace de promiscuité et où il a pu redécouvrir, en quelque sorte, et apprécier la présence de ses parents dont il avait été privé. D'ailleurs, cette question du rapport parental est assez complexe, hein, parce qu'au niveau autobiographique, par exemple, il a supprimé ses parents de l'Empire du Soleil, alors qu'il les a réintroduits, évidemment, dans sa véritable autobiographie. Donc, voilà. Alors, peut-être qu'on pourrait évoquer Sauvagerie, puisqu'on est effectivement à cette question du rapport parental enfant-parent, et de la question de l'environnement, de l'importance de l'environnement sur le comportement psychique des individus.
Oui, alors, j'ai, dans la perspective de la table ronde, j'ai relu Sauvagerie, qui en fait est le massacre de Pangbourne. Et alors, il y a plusieurs niveaux, il n'y a pas que sur l'espace, il y a aussi sur le rôle de la vidéo et de... Mais sur l'espace, effectivement, en fait, le massacre de Pangbourne, donc Sauvagerie, hein, retraduit et donc très récemment réédité par Tristram. C'est l'histoire d'un massacre qui pourrait ressembler au massacre de Columbine. Hein, donc le texte date, c'est de l'anticipation, le texte date de 1988. Des enfants ultra protégés, ultra libres de leur mouvement parce qu'en perpétuelle surveillance vidéo, massacrent leur famille. Et ça s'est raconté de façon extrêmement clinique sous forme de rapports de police et d'analyse de rapports de police des vidéos d'enregistrement qui montrent le massacre des parents par les enfants. Et l'espace, clairement, joue un rôle. Alors, il y a quelque chose d'inverse qui est étonnant, c'est que ce qu'il explique, c'est deux choses. Il explique que la perpétuelle, vraiment, je pense que le terme de perpétuelle est la perpétuelle surveillance vidéo, la perpétuelle couverture vidéo des enfants, est ce qui est quelque part leur extrême liberté, puisque ces enfants n'ont pratiquement aucune contrainte, puisqu'ils sont tout le temps sous surveillance vidéo. Leur extrême liberté va induire le seul acte de rébellion qu'il ait encore à leur portée et qui est la folie. Et qui est la folie destructrice et la folie parricide. Hein. Donc il y a évidemment clairement un jeu sur la famille. Donc dans Sauvagerie, on retrouve bien ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire ce jeu sur l'espace et aussi ce jeu sur les faux-semblants du réel avec la mise en abîme, avec la notion de vidéo, puisque tout le bouquin... n'est en fait qu'une analyse des vidéos enregistrées. Hein. Je peux peut-être en lire un extrait, oui, est-ce que c'est le moment?
Bien sûr, ouais. Bien sûr.
Ce qui vous donnera en plus l'évolution du style de Ballard qui, à mon avis, glisse vers le côté purement clinique. La clé de tout se trouve dans la curieuse vidéo tournée par Amanda Limington et Jasper Ogvili, qui se présente comme un documentaire tout à fait banal sur la vie quotidienne à Pangbourne Village. Long de 17 minutes environ, filmé avec la bienveillante collaboration des parents, il emprunte le style d'un clip publicitaire de promoteur immobilier. Sous forme de tableau vivant et dans des couleurs de magazine sur papier glacé, le film montre les parents assis dans leur salon en train de dîner ou de garer leur voiture. Le commentaire est affectueux, chaleureux. L'ensemble est comme une aimable parodie prémonitoire du documentaire qui devait être tourné par la BBC à la fin de l'été 1988. Les parents font les frais de quelques taquineries sans méchanceté. La caméra s'attarde sur Madame Sterling qui a mal calculé son saut de l'ange ou Monsieur Garfield au moment où il lâche son shaker. Des extraits de films ont été montrés aux parents et souvent projetés aux visiteurs, mais la version définitive, qui circulait en secret parmi les enfants, est très différente. C'est la même joyeuse bande, son, mais Jasper et Amanda ont ajouté environ 25 secondes de métrage, sélectionnés dans les actualités et des documentaires télévisés, montrant des fosses communes de camps de concentration, des accidents de voitures, des chaises électriques. Distribués au hasard entre les scènes des parents, ces atrocités changent le film en prophétie sinistre et menaçante. Voilà, donc il y a ce que veut montrer Ballard, en fait, c'est que plus un univers a l'air lisse, plus un univers a l'air polissé, plus un univers sous couvert de vidéos promeut une liberté hédoniste totale, plus il est la porte ouverte à l'horreur absolue. Et juste après, donc évidemment, dans la dernière partie des vidéos, on assiste au massacre tout à fait froid et calculé des parents par les enfants.
Oui, je montre après. Vas-y.
Oui, alors cette thématique, elle est très constante chez lui. Enfin, en tout cas, dans la deuxième partie de son œuvre, on trouve exactement la même chose dans Super Cannes, qui est donc cet ensemble qui est au-dessus de Cannes et qui est d'une architecture absolument impeccable, parfaite, hein, repeinte, enfin, totalement moderne, nickel, la perfection, et dont les dirigeants vont se défouler dans les bas-quartiers de la ville en tabassant, massacrant les Arabes, les prostituées, etc. Voilà. Donc il y a vraiment cette dualité. Et alors sur le rapport intérieur-extérieur, effectivement, il y a... c'est un thème qu'on retrouve constamment, qu'on trouve par exemple dans l'île de béton, hein, qui est un lieu clos entouré par des autoroutes. On retrouve la même chose dans le rêveur illimité où un aviateur vient s'écraser dans la Tamise devant le village de Shepperton. Et alors il est à la fois mort et vivant, c'est jamais très clair dans le livre et c'est fait pour. Mais il se retrouve prisonnier de cette ville de banlieue de Londres, Shepperton, d'où il ne peut plus sortir, dont les frontières se déforment à mesure qu'il essaie de quitter la ville. Et il finit par remanier totalement la ville à l'image de son rêve. Donc ça devient également un îlot qu'il façonne avec ses fantasmes. Et moi, je voulais donner un complément de... Alors, l'opposé de ce que... Non, de ce que tu viens de lire, justement, de la sécheresse de cette deuxième partie de sa vie qui s'oppose totalement à la prolixité lyrique de ses premiers ouvrages. Et c'est très étonnant de voir cette évolution. Par exemple, dans la forêt de cristal qui date de 1966, donc qui est le quatrième et dernier ouvrage de la série des quatre apocalypses, le premier étant paru en 1962, Le monde englouti. Ouais. Alors, par exemple, on a donc cette forêt qui se cristallise. Donc, c'est un des cas où il réfléchit sur la transmutation de l'organique en minéral, le tout dans une perspective extrêmement mystique. Et c'est ça qui est très curieux, c'est que dans ses premiers ouvrages, il y a vraiment quelque chose de mystique qui disparaît totalement à la fin. Totalement. Alors par exemple, un passage, donc les gens qui habitent à l'extérieur dans la forêt et qui s'y aventurent, ils se penchèrent tous en avant, stupéfaits, retenant leur souffle, les yeux écarquillés devant la longue ligne de jungle en face des bâtiments de bois blanchi de la ville. Le grand arc d'arbres surplombant l'eau paraissait ruisseler, étincelé de myriades de prismes, leurs troncs et leurs branches gainés de bandes de lumière jaune et carmin, teintait de sang la surface du fleuve, comme si toute la scène eût été reproduite en un technicolore trop vif. Sur toute sa longueur, le rivage en face d'eux étincelait, comme vu à travers un kaléidoscope brouillé. Les bandes de couleurs empiétant l'une sur l'autre accroissaient la densité de la végétation, si bien qu'il était impossible de voir à plus de quelques pieds entre les troncs de la première rangée. Le ciel était clair, immobile. Le soleil brillait sans arrêt sur ce rivage magnétique, mais de temps à autre, un souffle de vent ridait le fleuve et la scène éclatait en cascades de couleurs qui partaient en ondes dans l'air autour d'eux. Puis cette coruscation s'atténuait et les images des arbres réapparaissaient, chacun gainé de son armure de lumière avec un feuillage luisant, comme s'il eût été chargé de joyaux déliquescents. Donc ce phénomène qui est à la fois terrible et en même temps le devenir merveilleux de l'humanité. C'est là qu'il y a quelque chose de très bizarre.
Et c'est totalement deux formes de narration.
Ah, c'est deux formes de narration totalement différentes. Et on trouve, si je peux lire un autre extrait, alors dans un autre esprit, il continue toujours dans la première partie de sa carrière, Le rêveur illimité, paru en 1980, donc quand même... 14 ans plus tard. Mais on trouve toujours la dualité de l'organique, du minéral, du vivant et du mort. Et l'aviateur qui est censément mort, mais qui s'avère être quand même vivant, se fait descendre d'un coup de fusil par un habitant du village, après avoir rempli le village d'animaux, de plantes tropicales, etc., surgit de son rêve. Et pendant qu'il agonise, ces créatures vont lui redonner à lui la vie qu'il leur a transmise et vont le régénérer. Et ça donne le passage suivant. La forêt était immobile, toute activité avait cessé, le silence régnait sur l'herbe et les feuilles. Je sentais la vie couler en moi de tous les côtés par la volonté des créatures les plus humbles. Ces êtres simples s'unissaient pour me reconstituer. Les moineaux et les grives tapissaient mes yeux de leur rétine. Du fond de leur terrier, les campagnols et les blaireaux me léguaient leurs dents. Les ormes et les marronniers m'injectaient leur sève, telles des nourrices qui viendraient m'offrir leur lait d'un air grave. Même les sangsues collées à l'hélice du Cessna, son avion, les vers sous mes pieds et les myriades de bactéries qui grouillaient dans la terre gonflaient ma chair de leur nombre. Une foule immense d'êtres vivants peuplait mes artères et mes veines. Leur vitalité et leur bienveillance métamorphosaient la morgue de mon corps. La bave fraîche des escargots irriguait mes articulations. Les nervures d'un million de feuilles gorgées de soleil réchauffaient ma chair. C'est d'un lyrisme torrentiel. Il y a constamment des passages comme ça. Et même dans Crash, qui est quand même un livre assez noir, assez porno, il y a encore ce lyrisme dans les copulations entre l'homme et la voiture, et dans les blessures, et dans... chose qui disparaît totalement alors après. Totalement.
Oui, alors Roger voulait intervenir donc sur
oui,
ça aussi.
Non, moi je voudrais dire que dans la première tétralogie, là, celle où les quatre éléments sont pris pour cible, si j'ose dire, eh bien c'est le lieu, c'est la création d'espace extérieur, mais rendu avec un lyrisme dont parlait là. Et ensuite, il y a une sorte de restriction de l'espace vers les habitations que sont la ville de Crash, ou bien l'île de béton, ou bien l'immeuble aux grandes hauteurs. Et ensuite encore, ça descend vers les espaces plus restreints que sont ceux de la ville qui est organisée autour du monument pour en arriver... à la fin, c'est-à-dire au dernier des ouvrages de fiction qu'il a publié, dont le titre m'échappe.
Que votre règne arrive.
Que votre règne arrive, où là, tout est la ville n'existe plus, elle n'est plus que qu'un hypermarché. Et toute l'architecture et toute l'urbanisation vise à conduire les gens vers le supermarché qui ne pourront plus en sortir. Donc on a un passage du lyrisme le plus extraordinaire jusqu'à quelque chose qui est, et alors c'est là qu'on passe d'une écriture lyrique à une écriture plate, volontairement sèche. Plate, volontairement chirurgicale.
Sèche et chirurgicale, oui, tout à fait.
Mais d'ailleurs, il y a cette dialectique, elle est posée en tant que telle dans Le rêveur illimité, où aux créations du rêveur qui sont des créations organiques, donc des animaux, une végétation tropicale qui envahit la ville, s'opposent les boutiques avec les téléviseurs, les machines à laver, etc. Il y a ces deux espaces qui luttent l'un contre l'autre. Et le type qui va le descendre, d'ailleurs, fait à un moment une pyramide avec des machines à laver. Donc c'est vraiment la civilisation qui combat la vie. On peut dire ça comme ça.
Ça devient presque une nature parallèle, hein, parce que dans certains cas, effectivement, une sorte de croissance quasi-organique, enfin, pseudo-organique, de justement des amoncellements, des empilements de télévision, d'appareils ménagers, etc. Et donc, parmi ces déchets industriels, dont on trouve aussi beaucoup de traces dans IGH, par exemple, parce que le personnage est perdu à la fois dans les herbes hautes, sur les bas-côtés de l'autoroute, et en même temps, donc, on ne voit pas littéralement, et en plus, il est entouré de carcasses de voitures, etc. Oui, ce que je voulais dire, donc il y a ce côté parallèle. Tu évoquais la notion de fantasme tout à l'heure. Je crois que c'est quand même quelque chose qui est très important, à la fois dans la formation de Ballard, donc son rapport à la psychanalyse, et aussi en tant que source d'inspiration de son œuvre. Tu pourrais peut-être dire quelques mots.
La sexualité est une véritable obsession chez lui. Enfin, elle est présente constamment. Crash est écrit comme un roman porno et. Les scènes de copulation sont d'une crudité réelle. Et le rêveur illimité, le fantasme de l'aviateur, c'est de féconder la Terre. Il commence déjà quand il est adolescent, il essaie de féconder la Terre. Et quand il arrive dans ce village, c'est avec son sperme qu'il transfigure tous les objets qu'il touche. Il circule à travers la ville, tout nu en se masturbant. Et sa semence, partout où elle va, engendre des fleurs magnifiques, des plantes somptueuses. Et lui-même veut s'accoupler avec tous les habitants de la ville. Alors s'accoupler, ça ne veut même pas dire seulement sexuellement. C'est carrément les absorber dans son corps et les recréer hors de lui-même pour leur apprendre à voler. Donc il y a toute cette... Et cette sexualisation des relations, et ça revient aussi même... Alors ça reste dans les derniers, dans Supercan, il continue aussi à baiser à tour de bras, enfin, si j'ose dire.
Évidemment, il y a aussi une dimension, on ne l'a pas dit encore, mais enfin, on n'a pas prononcé le mot, mais il y a aussi une dimension psychanalytique, et la psychanalyse joue un rôle important aussi dans son œuvre, donc justement sur cette interprétation, notamment du sexe. Et on le voit, il en parle aussi, alors un peu moins dans son autobiographie. Je réalisais tout à l'heure ce que tu disais, Gilles, sur effectivement l'absence des parents dans l'Empire du Soleil, la réintroduction des parents là, mais de façon quand même très limitée. Hein. Les parents jouent un tout petit rôle et il n'y a pas vraiment de... peut-être qu'il y aurait quelque chose à creuser sur le rapport ici avec les parents, parce qu'il reste assez absent de l'autobiographie.
Je me suis fait la même réflexion en t'écoutant
tout à
l'heure.
C'est étonnant, il y a juste un petit chapitre avec mes parents.
Mais c'est vrai que dans l'ensemble de son œuvre, les parents sont absents. Je crois qu'on peut dire ça.
Ou tués.
Alors que les enfants sont là. Il y a régulièrement, dans Le Rêveur Illimité, il y a trois gamins qui chacun ont un handicap physique. Il y a une petite fille aveugle, il y a un gamin qui a une jambe paralysée et le troisième qui est mongolien. Et ces trois petits enfants sont quasiment le ressort fondamental du roman. Ils le suivent partout. Et il y a la présence des enfants également dans Supercan, avec les enfants qui sont livrés à la prostitution, le personnage d'Alice, alors que les figures parentales sont beaucoup moins nettes. Il y a une espèce de vide à cet endroit-là, je crois, effectivement.
C'est-à-dire, soit les figures parentales sont niées et détruites, soit elles sont délétères. C'est-à-dire que dans Supercan, voilà, c'est le monde des adultes qui vient détruire l'innocence ou le... Il y aurait, enfin, avec Ballard...
ou alors elles apparaissent sous la forme du psychiatre. Il y a le psychiatre pervers qui est à la fois dans Supercan et dans Millennium People, qui est d'espèce de démiurge qui agit sur les autres, qui est le psychiatre imbu de son savoir, de sa puissance, etc., à qui on se réfère parce que il incarne la sécurité, mais en fait c'est lui qui insuffle la perversion aux autres. Donc personne très ambigu.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a des figures paternelles substitutives, dégradées, mais parfois aussi un but d'un certain pouvoir. Effectivement, la figure de Prospero est une de ces figures paternelles qu'on trouve. Moi, je voulais revenir peut-être, moins que Roger, tu veuilles intervenir là-dessus.
Non, là-dessus.
Mais vas-y.
Si, peut-être, entre Le Rêveur illimité et Crash, il y a une grande différence au point de vue de la sexualité, c'est que dans Le Rêveur illimité, c'est une espèce de panthéisme.
Oui. Tout à fait.
Alors que dans Crash, il y a une sorte, une perversion volontaire, et je dirais une perversité posée jusqu'au bout.
Et pourtant, Crash est antérieur de 7 ans au Rêveur illimité.
Ouais. Oui, donc il a changé entre-temps.
Ouais. Mais il y a donc quand même, dans ces premiers ouvrages, il y a quand même déjà des signes annonciateurs de l'évolution qui suivra. C'est vrai que Crash, il y a un mysticisme, mais il est quand même très cynique. Il est d'une certaine manière presque plus naïf dans Le Rêveur illimité.
Oui. Dans Crash, il serait intéressant de voir ce qu'en a fait Cronenberg dans le film qu'il a tiré.
Il en a fait un film très glacé, très beau, très réussi à mon avis.
Oui, mais il a réussi à garder ce côté glacial, ce côté, comment dire, ethnologique presque.
Oui, tout à fait.
Et pourtant, Ballard dit que le film commence là où son roman finit. Donc il en est moyennement satisfait. Enfin, il apprécie l'esthétique de Cronenberg, mais en même temps, il considère que Cronenberg n'a pas vraiment rendu compte de son livre, mais il a fait autre chose en marge. Mais bon, ça serait à discuter. Moi, je voulais revenir sur... tu as évoqué tout à l'heure la question du fantasme, effectivement. Je crois que ça apparaît déjà dans La foire aux atrocités, donc dans un certain nombre de cas. Et moi, quelque chose qui m'a frappé, c'est évidemment la violence, le rapport à la violence, mais aussi le rapport à l'image, c'est-à-dire l'image, et en particulier l'image agrandie démesurément, fragmentée. Et donc la fragmentation de l'image, par exemple les gros plans du visage ou du corps de certaines stars, etc., comme Marilyn Monroe ou d'autres qui à l'époque étaient importantes, mais qui depuis ont pas comme Jane Mansfield par exemple. Et donc autour, en plus de ces accidents d'automobile qui sont la cause de la mort de ces personnages, donc l'espèce d'obsession pour l'accident d'automobile. Ce rapport à l'image, donc très, très fantasmatique, très obsessionnel, me paraît quand même très important. Tu parlais de la vidéo tout à l'heure, mais aussi l'image photographique. Et là, le rapport est évident, je pense, avec le pop art et Warhol, par exemple.
D'ailleurs, l'obsession de Vaughan dans Crash, c'est de tuer Liz Taylor.
Oui, c'est ça.
C'est ça son fantasme ultime. Il voudrait avoir un accident de voiture où il tue Liz Taylor.
Et elle n'est pas morte.
Mais non, il a raté son coup. Et on retrouve dans Supercan d'ailleurs des figures de mannequins avec des corsets très bizarres qui ont un caractère encore une fois médical, comme tu disais tout à l'heure. Et je crois que la mutilation est une idée assez obsédante chez lui aussi.
Et ce qu'il appelle le mariage du sexe et de la technologie, c'est-à-dire l'impression de sensuelle, l'impression du corps littéralement sur, par exemple, sur les sièges de voiture, sur la marque laissée par le corps sur l'inanimé, le technologique, et du coup la porosité des frontières entre les deux. Je crois que c'est quand même quelque chose de
récurrent, tout à fait.
De récurrent,
oui, tout à fait. Et ça c'est à toutes les périodes confondues. Tout à fait.
Mais en fait. Je repense encore à Sauvagerie. Il dit, à propos des enfants, il dit, c'est comme si pour eux le film venait d'abord, avant la réalité. Et en fait, alors c'est ça qui est très dur, c'est que c'est dur de faire une analyse, une lecture claire de Ballard. Mais si on regarde les deux périodes, il me semble qu'il prétendait ne plus écrire de science-fiction, oui, mais en réalité, au contraire, il n'est allé que de plus en plus vers la science-fiction, finalement. Parce que dans des textes d'anticipation, qui d'abord, pour moi, l'anticipation fait partie de la science-fiction, mais il a parfaitement compris le monde réel aujourd'hui. Et je veux dire, à mon sens, rendre hommage à Ballard aujourd'hui, bon, parce que voilà, il y a eu son parcours, il y a eu sa disparition, mais je ne voudrais pas que cet hommage à Ballard soit simplement né du fait qu'on republie ses nouvelles et son autobiographie sort. Je pense que plus que jamais, il faut lire Ballard. Parce qu'il nous parle vraiment de la déshumanisation d'aujourd'hui, liée au règne de l'image d'une part, et liée quelque part. Alors, c'est dur d'opposer l'exaltation de la nature et la communion presque sexuelle, séminale de la nature, avec la froideur technologique et la froideur de l'image technologique de Sauvagerie, par exemple. Donc il serait très maladroit de résumer Ballard à ça, mais il me semble que lorsqu'il nous dit que c'est de la déréalisation née du règne de la vidéo que peut naître la plus grande sauvagerie. Je pense qu'il a un message tout à fait clair sur le monde d'aujourd'hui. Pour nous, le film vient d'abord.
Oui, mais je crois aussi que ce qu'il constate, et en ça il a raison, c'est qu'on assiste à une minéralisation du monde. C'est-à-dire que si on compare la surface de la Terre par rapport à il y a quelques milliers d'années, il y a beaucoup plus d'immeubles, d'autoroutes, de choses minérales qui traduisent l'envahissement du minéral au détriment simplement de la forêt, tout simplement.
Oui, mais c'est justement cette violence cachée, qui n'est pas une violence que l'on aperçoit, mais construire une autoroute dans une forêt, c'est une violence.
Ah ben oui, c'est ça qui constate.
Construire comme Maître Jean Sarkozy à l'EHPAD pour construire d'autres immeubles, c'est une violence. D'ailleurs, on s'en est aperçu.
Oui, tout à fait. Alors c'est marrant parce qu'il y a une tentative de trouver des antidotes à ça. Par exemple, la cité de l'ultime, Miranda. Donc en plus, c'est la fille de Prospero, fait pousser des plantes. Les plantes exotiques qui justement sont censées lutter contre cette technologie, mais qui en même temps sont vénéneuses. En tout cas, c'est une ambivalence aussi. Alors bon, on vient d'évoquer ces questions-là, mais moi je voulais revenir sur une question esthétique. Ballard se considère quand même à un moment donné il a été aussi considéré comme un auteur expérimental. Donc je m'adresse à deux écrivains que vous êtes. Que pensez-vous justement de cette tentative qui correspond aussi à ce que faisait William Burroughs à peu près à la même époque, c'est-à-dire l'esthétique du fragment ou du cut-up, c'est-à-dire l'image est fragmentée, mais la narration elle-même est fragmentée. S'il écrit des textes très courts et quelque chose qu'il a totalement abandonné dans ses derniers textes, où on revient finalement à une narration relativement classique, même s'il y a un système de flashback, de rétrospective, etc. Par exemple, dans La foire aux atrocités, est-ce que c'est encore lisible ou est-ce que ça porte la marque d'une époque, on pourrait dire à certains égards révolue, sur le plan stylistique? Juste une question.
Je peux pas te répondre sur La foire aux atrocités, mais dans l'ensemble, pour moi, pour répondre à ce que disait Hugo, pour moi, Ballard est typiquement un auteur transfictionnel, c'est-à-dire il est typiquement à la frontière entre la SF et la littérature générale, dans l'ensemble de son œuvre. Ce qui a disparu dans la deuxième partie de son œuvre, c'est les éléments que je pourrais appeler surnaturels, c'est-à-dire qui n'apparaissent pas dans la vie de tous les jours. Il est arrivé à une forme de réalisme qui se situe dans un futur immédiat. Donc en ce sens-là, il fait de l'anticipation, mais vraiment d'anticipation à court terme. Ça veut dire Supercane, c'est quasiment déjà dépassé.
C'est une très légère extrapolation.
C'est une très légère extrapolation.
Disons qu'il voit le réel, mais il en déforme simplement les effets. Voilà. Moi j'ai grandi pas loin de Cannes. Il n'y a pas non plus des massacres. Bon, ceci dit,
les massacres, ils sont ailleurs, ils sont dans les pays du tiers-monde, mais ils sont quand même là. Voilà. Ce qu'il a fait, c'est qu'il les a rapprochés. Mais en fait, objectivement, ils sont ailleurs.
Vous pouvez circuler dans Supercane, mais il ne faut pas y rester longtemps. Sinon, il vous arrive d'autres choses qui sont peut-être pires que d'être coupé en morceaux. Non, mais sur le côté esthétique, moi, j'aurais du mal à répondre. Là pour le compte, j'avouerai vraiment mon incompétence, tout simplement, parce que mon rapport à la science-fiction et mon rapport à l'interprétation de Ballard portent plutôt sur le fond et les idées. Oui. Et c'est vrai que, sur ce côté-là, j'admire l'évolution stylistique de Ballard, et on en a montré des exemples, mais je ne saurais pas la décrypter en tant que telle. Voilà, c'est pas la raison pour laquelle je m'intéresse à Ballard, mais oui, probablement qu'on peut aussi en faire une lecture de ce type, notamment par rapport à Burroughs. Ouais.
Je sais pas, Roger. Je crois qu'on a évoqué de manière un peu. Je crois qu'il y a un des grands thèmes qu'on a évoqué de manière implicite, c'est le thème de la manipulation. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnages ballardiens sont des grands manipulateurs et le personnage croit contrôler la situation et en fait, il est toujours manipulé par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quand même... Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Et je terminerai en disant qu'il faut lire Ballard aujourd'hui aussi parce que c'est un écrivain éminemment politique. Y compris dans son approche du corps et de la sexualité ou de la violence. Et je crois qu'il dit quelque chose d'important. Il dit que le consumérisme peut mener au fascisme. Alors je ne sais pas, peut-être terminer là-dessus et puis donner la parole ensuite au public.
Oui, excuse-moi. Non, moi ce que je vois aussi dans Ballard, c'est pas simplement un constat, qu'il fait un constat de la violence, mais c'est qu'il donne aussi quelque chose comme des images de la révolte. Même si cette révolte n'aboutit pas, elle est quand même là. Et il est intéressant de voir que ça peut être une révolte par la folie dont on parlait pour tout à l'heure, mais c'est aussi une révolte par l'obsession, n'est-ce pas? Dans Crash, Vaughan se révolte contre la réalité. C'est pour ça qu'il passe par la photo. Et c'est une autre manière obsessionnelle de répondre à une réponse individuelle. Il n'y a plus de chez Ballard, il n'y a pas de réponse collective. Il n'y a que des réponses individuelles, et ces réponses individuelles peuvent passer par la révolte. Et moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé chez lui.
Moi, j'ajouterais qu'en plus, c'est très beau, ça se lit, c'est passionnant à lire. Enfin, et ça ne se démode pas du tout. Je trouve qu'aucun de ses livres n'a vieilli.
Absolument.
Sur le fascisme, l'extrême liberté mène au fascisme, indiscutablement, et le consumérisme mène au fascisme, indiscutablement, et le fascisme fait plus que ramper aujourd'hui, indiscutablement. Il écrit dans Sauvagerie, que je vous conseille fortement de lire pour la modique somme de 13 €, qui est un texte court et percutant, à propos de ces jeunes enfants qui tuent leurs parents avec une extrême froideur. Hein. Il dit « J'ai eu l'impression d'avoir affaire à de jeunes esprits qui se forçaient à la folie comme moyen de trouver la liberté. » En fait, si on continue comme ça, il faudra bien que quelqu'un nous rappelle notre nature humaine. Et la nature humaine, c'est aussi l'irrationalité. Et le consumérisme mène au fascisme, indiscutablement, et parce que c'est un consumérisme de masse. Vous pouvez relire Hannah Arendt sur les origines du totalitarisme, et vous verrez qu'elle n'est pas loin du même message que Ballard vous donne. Mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe, il ne faut pas en faire une analyse misérabiliste. Je pense simplement, tout simplement, que la lecture de Ballard est probablement plus pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a déjà 20 ans.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Bon, donc je pense qu'on a fait un petit panorama, donc à la fois thématique et stylistique, un petit peu. C'est vrai que c'est quelqu'un qui écrit de manière très différente, mais il y a toujours cette cohérence, cette homogénéité. Je terminerai en vous recommandant quelque chose qui n'a peut-être rien à voir, mais un peu quand même, par rapport à Sauvagerie. Il y a le dernier film de Michael Haneke, Le Ruban Blanc, est en fait une sorte d'envers de Sauvagerie, puisque là, les enfants tuent, deviennent meurtriers, ou sadiques, ou criminels, parce qu'ils ont été élevés de manière trop rigide, trop puritaine. Donc c'est l'envers. Donc trop de liberté peut mener à la violence, ou pas assez de liberté. Donc bon, c'est un objet de méditation. Donc je vous donne la parole, et merci aux trois intervenants. Si vous avez des questions, on a quelques minutes pour des questions.
Je voulais simplement rappeler qu'on est quand même dans un festival littéraire, et ça a été un petit peu politique et philosophique. Moi, une chose qui m'a toujours fasciné chez Ballard, c'est la beauté de son style.
On en a parlé.
Je voudrais revenir simplement sur un livre extraordinaire qui est Vermilion Sands, qui est un livre purement onirique, poétique, et qui se situe exactement entre sa trilogie apocalyptique et son œuvre plus noire. Alors, je voudrais savoir un peu ce que vous avez comme idée à propos de cette parenthèse surréaliste, comme disait Roger Bozzetto, mais que je trouve très poétique et extrêmement prenante et lyrique dans le cadre de la science-fiction.
Je te donne la parole. Je voulais juste te dire que j'ai justement cité Vermilion Sands comme l'un des exemples de textes poétiques et inspirés par le surréalisme. Les sculpteurs de nuages, la maison psychotrope, etc. Donc, Roger, si tu veux répondre.
Il faut dire que les nouvelles qui ont paru dans Vermilion Sands, la première nouvelle est de 1956. Et ce n'est pas un ouvrage qui est entre les deux, mais qui est persillé, si j'ose dire. Voilà, c'est une remarque.
Mais bon, je suis d'accord, on a parlé cet aspect politique parce que ça me paraît fondamental, surtout dans notre époque. Mais je pense pas qu'on ait oublié l'esthétique. Hein. On a évoqué beaucoup des questions de forme, de structure, me semble-t-il. Mais bon, après, c'est à vous de le dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Daniel ?
Merci, c'est pas toi une question, mais je pensais à ce que disait Roger sur la ville qui au fur et à mesure se transforme en centre commercial. Il y a une manière en France, pas très loin, de comprendre aussi ce paradoxe-là, c'est en allant, si vous allez à Disneyland, c'est d'aller vous balader à Marne-la-Vallée dans les villes qui ont été construites autour de Marne-la-Vallée. Et on a plusieurs villes qui ont ce modèle architectural qui nous est assez étranger pour nous Européens au départ, où on a des villes nouvelles qui sont entièrement organisées autour d'un mall. Et où le centre de vie, c'est le mall. Et la chose qui est assez étonnante, il y en a un dont je ne me rappelle pas le nom malheureusement, mais au bout du mall, il y a une fausse rue. C'est une rue dans laquelle on n'a pas le droit d'avoir son chien, on n'a pas le droit de prendre de photos, on n'a pas le droit de s'arrêter trop longtemps. Ce sont des fausses maisons qui sont toutes des boutiques. Et il y a une partie des paradoxes, notamment du réalisme de Ballard qu'on a là, qui est effectivement une description clinique réaliste d'une architecture qui, elle, est complètement détachée d'une réalité entièrement manipulatoire et fonctionnelle. Et pour l'avoir ressenti, moi, je me suis retrouvé dans cette rue-là avec un profond malaise. Parce que justement, on se retrouve à cet endroit-là sans savoir si on est dans un espace réel ou dans un espace commercial. Il est effectivement dans un espace commercial. Et l'ensemble de la ville est organisé autour de ce centre commercial qui est le seul lieu de vie et de rencontre. Et c'est quelque chose d'assez étonnant à vivre. Et on peut le vivre pas très loin d'ici, en allant autour de Marne-la-Vallée. Et ça, c'est assez étonnant comme expérience. Et on retrouve une partie des paradoxes qu'on a justement chez Ballard, comme on disait, entre ce réalisme clinique et une réalité qui a l'air fuyante sous un style extrêmement réaliste derrière. Et merci pour le reste. Et on voulait dire babar, mais c'était un pari.
Qui est-ce qui veut intervenir? Une ou deux questions, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Un mot juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Je ne sais pas si vous l'avez lu, l'autobiographie. On y trouve bien les variations stylistiques aussi. Hein. Il y a des vraies envolées extrêmement poétiques. Moi, ça m'a beaucoup touché de voir qu'elle n'était pas simplement sur la modalité clinique, hein, comme j'ai évoqué dans Sauvagerie. Notamment quand il parle de son enfance, il y a des pages remarquables.
Je crois qu'il y aurait quelque chose à dire aussi de plus précis sur la psychopathologie, c'est-à-dire l'importance de la pathologie chez Ballard, c'est-à-dire la pathologie comme antidote en quelque sorte à certains égards dans Supercane par exemple. Disons qu'il pousse très très loin le paradoxe de l'idée qu'il faut se livrer à certains actes de violence pour aller mieux en quelque sorte, une sorte d'exutoire qu'on retrouve aussi dans son dernier roman d'ailleurs, hein, avec on encourage les gens à perpétrer des actes de racisme collectif, par exemple.
Oui, mais en même temps, ils dénoncent les conséquences de ces actes.
Bien entendu qu'ils dénoncent. Oui,
c'est-à-dire voilà. la fausse société parfaite voilà. Incite les gens à se comporter en psychopathe.
Tout à fait. Mais je veux dire que, disons qu'il faut le lire avec attention parce qu'on pourrait se tromper dans l'interprétation.
Oui, tout à fait.
Bien, écoutez, je crois qu'on va devoir laisser la place à la table ronde suivante.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup de votre présence.